Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes et Julie Delabrosse. À la réalisation, Elisabeth Miro. À la technique, Julien Calvas.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à la débâcle financière de 2008. Aujourd'hui, on va parler des leçons de la crise, leçons pratiques et théoriques. Au lendemain de la chute de Lehman Brothers, les dirigeants des 20 pays les plus riches du monde se réunissent à Washington pour répondre à l'urgence et réformer le système financier international. C'est la naissance du G20. Une série de mesures sera alors adoptée lors des sommets de Londres et de Pittsburgh l'année suivante pour consolider les banques et prévenir les risques. L'ère de la liberté totale et des dérives de la finance est révolue, veut-on croire alors ? Dix ans plus tard, que reste-t-il de la régulation financière ? Nos économies sont-elles préparées à un nouveau choc ? Et quels enseignements les économistes ont-ils retenus de la crise ? On en parle avec Laurence Chialom, économiste, professeur à Paris-Nanterre et co-auteur de ce rapport de Terra Nova dont nous sommes partenaires. 10 ans après, bilan des réformes bancaires et financières depuis 2008, avancées, limites et propositions. Il sera publié le 3 septembre. Nous sommes également en compagnie de Dominique Plion, économiste, professeur émérite à l'Université Paris 13, membre des économistes atterrés et contributeur du livre « 10 ans après la crise, prenons le contrôle de la finance » publié par Attac aux éditions Les Liens qui libèrent. Et à 14h50, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
Nous étions seulement quelques-uns à critiquer la façon dont l'économie de marché fonctionne. Et aujourd'hui, cette conférence montre que ce qui était l'avis de quelques universitaires ou experts est finalement devenu l'opinion dominante. Trois leaders politiques en ont parlé ce matin. Et ils ont reconnu qu'ils avaient changé d'avis sur la façon dont l'économie de marché fonctionne. La démocratie est un processus très lent, mais c'est la preuve qu'il y a un véritable changement dans notre façon d'appréhender l'économie de marché. Il y a aussi une prise de conscience que le capitalisme actuel, qui consiste à privatiser les profits et à mutualiser les pertes, n'est pas un capitalisme qui assure le bien-être des populations du monde entier.
Laurence Chialom et Dominique Plion, bonjour.
Bonjour.
On entendait l'économiste Joseph Stiglitz en 2009 se réjouir de cette prise de conscience de la nécessité de réformer le capitalisme. 10 ans plus tard, est-ce que selon vous, les mentalités ont vraiment évolué, Laurence Chialom ?
Alors, je pense que si Joseph Stiglitz en parlait aujourd'hui, il n'aurait peut-être pas un propos aussi optimiste, notamment parce que effectivement, on a eu l'impression que le grand soir était arrivé. En 2009, il y a eu une fenêtre de tir. De véritables réformes de la finance, mais très très vite la fenêtre s'est refermée et donc effectivement on a eu ce que le lobby bancaire appelle une avalanche de réglementations, mais effectivement on a eu beaucoup de réglementations, mais je pense qu'on en parlera durant l'émission, qui paradoxalement donne un sentiment de sécurité qui, à mon sens, est un faux sentiment de sécurité. La conception qu'on a de la finance n'a pas radicalement changé en réalité, et même les réformes dans leur inspiration n'ont pas radicalement changé. Et pire que ça, aujourd'hui, on est plutôt dans une phase aux États-Unis de détricotage depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, et en Europe, de pause réglementaire depuis l'avènement de Jonathan Hill, et ça n'a pas été démenti depuis.
Dominique Plion, cette vision aujourd'hui n'est plus partagée par les économistes. Les facteurs à l'origine de la crise de 2008 sont toujours présents.
Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Laurence Chialom très largement. Je pense qu'on n'a pas encore et toujours tirer toutes les leçons de la crise, et que fondamentalement, alors il faut peut-être distinguer l'opinion publique. J'ai le sentiment, en parlant avec des gens qui s'intéressent à l'économie, qu'il y a eu une prise de conscience, mais au niveau de nos autorités et au niveau des professionnels, banquiers, investisseurs, n'y a pas eu de changement réel, il n'y a pas eu de rupture, de changement de comportement, de telle sorte que les timides réformes dont on va parler, qui ont été mises en œuvre, sont apparues totalement insuffisantes, et que par ailleurs, comme le disait Laurence, ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est qu'il y a un nouveau cycle de déréglementation qui se met en place, non seulement avec ce qui se passe aux États-Unis, avec Trump qui détricote la loi Dodd-Frank d'Obama, mais aussi, par exemple, avec le Brexit, le phénomène du Brexit, avec une surenchère de concurrence entre l'Europe continentale et la Grande-Bretagne, qui pousse très largement à une nouvelle forme de déréglementation, ce qui est donc très très inquiétant.
Les mesures prises en 2008 et 2009 avaient pour objectif de lutter contre trois risques que vous identifiez dans le rapport de Terra Nova, la fragilité des agents financiers, la contagion entre les différents acteurs et l'opacité des transactions. Ce sont les trois priorités contre lesquelles il fallait lutter, Laurence Chalamet.
Oui, bien sûr. Ça, je pense qu'en termes de diagnostic, le diagnostic était très très bon. La seule chose, c'est la manière dont on a mis en musique les réponses, qui pour certaines sont vraiment restées, on est resté au milieu du guet. Et très très vite, il y a eu des pressions très fortes pour ne pas aller trop loin.
Alors pour lutter contre ces risques, on a d'abord augmenté le capital des banques, Laurence Chalamet. Dans quel but et est-ce que ça vous a paru suffisant?
Alors le capital des banques, il faut savoir que c'est le seul poste du bilan qui en fait n'est pas remboursable. Et donc c'est celui qui absorbe les pertes non anticipées. Donc typiquement, quand on a une crise de ce type, ça n'a pas été anticipé. Donc il est important que les intermédiaires financiers aient beaucoup de capital pour absorber ces pertes par eux-mêmes. Or en fait, avant la crise, parce qu'on a mis un type de ratio de capital où les banques les plus grosses calculent elles-mêmes le dénominateur, en fait, on croyait qu'elles étaient bien capitalisées et en fait, elles étaient très très mal capitalisées. Donc en fait, le système n'a pas pu absorber les pertes par lui-même, d'où la nécessité en fait d'intervention de l'État, donc recapitalisation, garantie de créance des banques, ce genre de choses.
Le fait d'imposer davantage de fonds propres, comme ça a été le cas aux États-Unis et en Europe, Dominique Plion, qu'est-ce que ça a permis comme effet?
Alors, je pense qu'il y a une contradiction interne dans le système prudentiel. On ne sera pas forcément d'ailleurs peut-être d'accord avec Laurence Chalamet. Je pense que la contradiction est suivante. En effet, comme le disait Laurence, il est important que les banques aient un capital suffisant pour absorber leurs pertes, comme d'ailleurs beaucoup d'entreprises, mais c'est encore plus important pour les banques parce que elles prennent des risques importants, elles absorbent des risques. Mais deuxièmement, la contradiction, c'est que à vouloir trop exclusivement axer la régulation sur les fonds propres, ce qui est la caractéristique de la régulation prudentielle, du comité de Bâle, etc., on encourage la logique actionnariale dans la banque. À savoir que les fonds propres, c'est les fonds des actionnaires, c'est les actions, principalement, c'est le capital action. Et donc, à vouloir donner la priorité à cette forme de régulation, eh bien, on pousse cette logique actionnaire qui elle-même est responsable de la crise en partie parce que ça amène les banques à avoir une logique de rendement à tout prix pour leurs actionnaires, de comportement souvent court-termiste. Et quelque part, c'est ça qui est à l'origine, de la crise. Et donc, la contradiction interne du système, il est là. D'où ma préconisation. Nous avons rédigé un rapport pour le Conseil d'analyse économique il y a quelques années sur cette question de la régulation. Et une de nos recommandations, c'était d'avoir d'autres instruments, par exemple, de nature pour lutter contre notamment ce qu'on appelle le risque systémique ou les comportements de type spéculatif, des réserves obligatoires sur les crédits, j'en prends un parmi d'autres, qui n'a pas du tout été adopté, ça plaisait pas du tout aux banquiers et aux autorités. C'est l'idée que voilà, on impose des règles au sens où s'il y a une progression trop rapide des crédits qui sont à l'origine souvent de spéculation, par exemple sur le marché de l'immobilier, eh bien ça peut, s'il y a des réserves notamment qui progressent rapidement, qui augmentent dès qu'on a atteint un certain seuil, ça peut stopper ce type de comportement. Je donne cet exemple pour dire que on a trop mis l'accent, à mon avis, sur les fonds propres, même si la réforme Bâle 3, qui a été mise en place après la crise, a créé de nouveaux instruments sur la liquidité, l'effet de levier que Laurence connaît évidemment très bien. Mais moi, je pense que là, on n'a pas probablement, même certainement, mis en place un arsenal suffisant. Alors les banquiers vont dire « Oh là là, on est déjà trop réglementé ». C'est aussi ce que dit d'ailleurs l'actuel président de la République, qui est un ancien banquier, qui dit « Oh là, les banques sont trop réglementées, ça freine leur activité ». Non, il faut diversifier la régulation, la réglementation, et je pense qu'on ne l'a pas fait suffisamment.
On a également créé un renflouement en interne qu'on appelle le bail-in. Alors l'objectif, c'est que les pertes des banques soient absorbées par les détenteurs d'obligations et qu'ainsi les États ne soient pas obligés de renflouer les banques. Quel bilan on peut faire de ce procédé?
Alors, c'était au départ a priori une bonne idée. L'idée, c'était que, effectivement, comme ça a été dit par Joseph Stiglitz, on est dans un système où En gros, ceux qui prenaient les risques ne les payaient pas. C'était la collectivité qui payait, notamment quand c'était des acteurs, des banques systémiques qu'on pouvait pas laisser faire faillite. Et donc, comme les banques ont fait une pression très forte pour qu'on n'augmente pas trop leur capital, en utilisant des arguments qui sont faux, hein, disant que trop de capital limite le financement de l'économie. Or, les études de la BRI montrent que justement, la Banque des règlements internationaux montre justement que ce sont les banques les mieux capitalisées qui prêtent le plus, donc sur la base d'arguments fallacieux, mais qui ont été achetés par les autorités publiques, on a dit on va mettre en place des instruments de renflouement interne. Et donc l'idée, c'est de... Si une banque devient, a des difficultés financières et donc s'approche de l'insolvabilité, certains créditeurs de la banque qui détiennent des obligations dont on sait qu'il y a un contrat, une clause qui fait qu'elles peuvent être soit convertibles en actions, soit décotées, eh bien, c'est eux qui vont prendre en charge les pertes. Alors, le problème étant que ça a fonctionné sur des petites banques italiennes, sur 4 petites banques italiennes. Mm-hmm. Il y a des créditeurs qui ont pris leurs pertes. Ça a été utilisé à Chypre également, dans la crise chypriote. Mais dès que vous tombez sur une grosse banque, par exemple Monte dei Paschi di Siena, qui pourtant n'est systémique qu'à l'échelle locale, hein, elle ne va même pas faire partie du prochain stress test de la Banque Centrale Européenne et de l'Autorité Bancaire Européenne, eh bien, ça devient très difficile. Parce que qui les détient ? D'autres acteurs de la finance. Donc, ceux-ci sont plus informés. S'ils voient venir le problème, eh bien, ça peut devenir une source de... ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices. Ils vont se retirer rapidement et donc en fait ça va créer la crise qu'ils craignent.
Aux États-Unis, c'est le Dodd-Frank Act adopté par le Congrès en 2010. Et justement, cette loi Dodd-Frank a été torpillée par la nouvelle administration américaine. Vous l'évoquiez tout à l'heure. On écoute Donald Trump lors de la signature du texte le 24 mai dernier.
This is truly a great day for America.
C'est un grand jour pour l'Amérique, un grand jour pour les travailleurs américains et les petites entreprises à travers le pays. Le décret que je signe aujourd'hui vise à revenir sur cette loi désastreuse, la loi Dodd-Frank, qui écrasait les banques locales et les coopératives de crédit. Ces établissements sont aujourd'hui dans une grande détresse. Quand j'étais candidat, j'avais promis de les sauver de Dodd-Frank, du désastre Dodd-Frank. Aujourd'hui, avec mon entourage, je tiens ma promesse. La loi, complexe et coûteuse, avait donné aux grandes banques un avantage comparatif injuste sur les banques de quartier. Et ça, dans tout le pays. Depuis qu'elle est passée, il y a juste 8 ans, 20% des petites banques ont mis la clé sous la porte. Ce que nous faisons aujourd'hui, avec la fin de la loi Dodd-Frank, est très important. Et je dois dire que pour un Congrès qu'on accusait de ne rien faire, de ne rien oser à l'approche des élections, je trouve qu'on en fait quand même pas mal. On en fait même plus que n'importe quel Congrès depuis longtemps.
L'autosatisfaction de Donald Trump actant la fin de la loi Dodd-Frank. Une réaction à cette déclaration du président américain Dominique Plion, peut-être sur cet avantage comparatif injuste, dit-il, des grandes banques sur les banques de quartier.
Alors, il est juste... Personne ne peut le contester qu'il y a un avantage comparatif des grandes banques sur les banques de quartier. J'y verrai même un peu plus loin, puis j'en profite pour le dire, je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est que ce qui est un drame, et je dirais que pour la France particulièrement, qui est gouvernée, enfin dans les 80% des activités bancaires sont faites par les 5 grandes banques, mais systémiques, hein, eh bien ça crée 3 problèmes au minimum qu'il faut absolument prendre en compte. Un premier problème, c'est qu'elles ont un avantage en effet, elles bénéficient de ce que les économistes appellent une subvention implicite, comme elles sont trop grosses pour faire faillite, les acteurs de marché leur prêteront plus facilement, sachant qu'elles sont moins risquées puisqu'elles seront secourues, donc elles bénéficient. Deuxièmement, il y a un problème de concurrence déloyale, c'est-à-dire que les petites, étant dans une situation plus difficile, eh bien, elles ont plus de mal à exister et donc, quelque part, à survivre. Et troisièmement, il y a un problème de démocratie, c'est que le poids économique, mais aussi politique, et on en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera des lobbies, de ces grandes banques est tel qu'elles roulent pour elles-mêmes, évidemment, et elles écrasent complètement, elles ne prennent pas en compte les situations particulières des petites banques, alors qu'on a besoin de petites banques, aujourd'hui, d'une manière décentralisée, au niveau local, etc. Et c'est ça qui est intéressant dans Donald Frank. Donald Trump, c'est lapsus intéressant, c'est que Donald Trump se fait le champion de la défense des petites banques, alors qu'en fait, il est le défenseur du big business et que la politique qu'il mène aujourd'hui, typiquement, notamment en démantelant Dodd-Frank, c'est l'inverse. C'est une politique qui va, au contraire, tout à fait dans le sens des intérêts du big business. D'ailleurs, qui ne s'est pas trompé, hein, les grandes banques de Wall Street sont absolument ravies du démantèlement de cette loi Dodd-Frank. Donc, voilà, et c'est pour ça que c'est les propos de Donald Trump sont vraiment difficiles à interpréter. Ils sont à mon avis, contraires à la réalité.
Cela remet aussi en question, Laurent Sialom, la règle Volcker, cette loi de Dodd-Frank qui limitait la spéculation bancaire.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, bon, il y a très, très peu de pays qui ont adopté des mesures de séparation et où, quand elles l'ont été assez à dose homéopathique. Aux États-Unis, il y avait cette règle Volcker qui sépare pas vraiment, mais qui empêche d'une certaine manière le trading pour compte propre, c'est-à-dire que le fait que la banque spécule avec son propre capital et ne fait pas des opérations au compte de ses clients, mais pour elle-même, elle spécule pour elle-même. Donc il y avait des règles, des garde-fous, disons, même si ça prenait de l'eau de partout, parce que c'est très compliqué à mettre en place, alors qu'une vraie séparation est beaucoup plus. Mais voilà, ça c'est vraiment symptomatique. Et ce que je voulais dire, je suis tout à fait d'avis de Dominique Plion, parce que c'est ça qui est très compliqué. Donald Trump, le fondement, les informations, ce qu'il dit comme étant la justification du détricotage de la réglementation, c'est des fake news. C'est-à-dire que là, on a des fake news, voilà, qui servent de base à une politique publique. C'est excessivement grave parce que tout ce qu'il dit est contredit par les études académiques et de recherche.
Dominique, je peux rajouter quelque chose, si on vient en Europe, parce qu'il y a les États-Unis, mais l'Europe, et en Europe, on a quelque chose de semblable. Nous avions une directive en préparation par la précédente commission qui organisait, prévoyait la séparation. Certes, pas autant qu'on le souhaitait, mais ça aurait été une avancée. Mmh. Et qui s'est le plus opposé, c'est l'établissement bancaire français. Et la loi bancaire française de 2013, comme dont M. Vosco ici était l'auteur, hein, comme ministre des Finances à l'époque, est une loi qui ne sait pas rien du tout. Donc en Europe, hein, faut pas croire que les États-Unis seuls dans cette posture-là, en Europe aussi, on a bloqué les vraies réformes et aujourd'hui, on est dans une situation où le business model des banques n'a absolument pas changé depuis la crise. Et c'est ça qui est important. Donc, les comportements de prise de risque, de spéculation vont continuer d'exister et c'est ça qui est pour nous très inquiétant.
Vous parlez de la loi de Pierre Moscovici de 2013,
on va l'entendre. De séparation et de régulation des activités bancaires.
On va entendre justement Pierre Moscovici.
Ce sur quoi nous travaillons, c'est sur une véritable séparation des activités des banques entre les activités qui sont spéculatives ou qu'elles font pour elles-mêmes, dont certaines devront être prohibées, je pense au trading à haute fréquence, dont certaines devront être régulées, qu'il faudra aussi être capable de cantonner au sein des banques, et en même temps, de l'autre côté, les activités utiles au financement de l'économie. Nous avons un modèle de banque universelle à la française, qui est un modèle qui a fait la preuve de sa capacité à résister, qui est un modèle solide. Il y a aussi une industrie bancaire qui, en France, emploie 400 000 personnes. Il ne s'agit pas de fragiliser, il s'agit d'améliorer. Notre modèle de banque universelle est un modèle performant, qui a plutôt mieux résisté à la crise. Je ne vois aucune raison de le fragiliser. En revanche, il faut moraliser. Et pour moraliser, il faut séparer les activités. Et le faire sans fermeté, avec fermeté. Je ne suis pas, moi, pour une retouche cosmétique ou homéopathique. Je suis pour de vraies transformations. Mais des transformations qui, en même temps, ne cassent pas.
Pierre Moscovici, en 2012, on le voit, le projet de loi qu'il évoque sera adopté donc un an plus tard, en 2013. En quoi, selon vous, cette loi de régulation et de séparation des activités bancaires a-t-elle été cosmétique, selon vous?
Citons un des grands patrons de l'époque, enfin qui est toujours un grand patron, d'ailleurs Monsieur Frédéric Oudéa, patron de la Société Générale, qui a déclaré au sortir d'une réunion d'une commission justement préparatoire de la loi, nous sommes satisfaits et cette loi ne touchera que 1% de nos activités. Donc voilà, c'est une loi cosmétique et je crois qu'il y a eu beaucoup d'économistes, Laurence en faisait partie, j'en faisais partie et bien d'autres encore, qui ont travaillé sur cette question-là et qui ont montré sans aucune difficulté que c'est une loi marginale, cosmétique. Et là, on a encore quelque chose qui est une contre-vérité de la part d'un ministre, c'est quand même assez grave. C'était grave de la part d'un président de la République américain, mais en France aussi, on a des politiques qui disent des choses contraires à la réalité. Ils parlent de la suppression du trading à haute fréquence. Le trading à haute fréquence n'a jamais été supprimé. Il continue de plus belle. Donc, il faut arrêter de dire des choses qui sont des contre-vérités.
Il parle du modèle français de la banque universelle qui n'aurait, ne nécessiterait pas cette séparation entre les activités bancaires.
Alors déjà, banque universelle, il faut faire la distinction entre des petites banques universelles et des grandes banques universelles. Quand c'est des très grandes banques universelles, c'est elles qui posent problème. C'est-à-dire qu'une banque, quand elle grossit, elle grossit pas, vous voyez, c'est pas elle, si elle lâche pas 30% de crédit, elle aura pas 30% de crédit quand elle est plus grosse. À mesure qu'elle grossit, elle fait des activités de marché, elle fait moins d'activités de financement. Les plus grosses, ce sont celles qui financent le moins l'activité, si on considère que le crédit bancaire est ce qui est traduit le mieux le financement de l'économie. En réalité, cette loi ne s'attaque pas du tout au modèle des banques universelles. Alors ça, c'est le grand argument du lobby bancaire, de dire nos banques ont bien résisté. C'est oublier un petit peu vite que si elles ont résisté, c'est qu'on les a un peu aidées. Alors par exemple, si certes, ce n'est pas le contribuable français qui directement a renflouté la Société Générale, mais si AIG, l'assureur américain, n'avait pas été renfloué par le contribuable américain, eh bien la Société Générale était en faillite, compte tenu des... Et puis il y a eu le plan de garantie des créances, il y a eu un tas d'aides qui ont fait qu'on les a aidés à passer. Alors elles disent on a remboursé avec intérêt, certes, mais s'il n'y avait pas eu d'aide publique, le système était par terre.
Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui en France on assiste à un retour du too big to fail, de ces mastodontes bancaire.
Ça n'a jamais disparu. Ça n'a jamais disparu. Les banques, alors il y a une de nos banques qui est sortie de des banques systémiques, de la liste des banques systémiques, c'est le groupe BPCE Natixis qui est sorti de la dernière liste. Ils ont effectivement eux changé un peu leur modèle d'activité, mais BNP Paribas, la Société Générale n'ont absolument pas changé leur modèle.
Alors pour éviter la contamination et la contagion entre les instituts financiers, un autre procédé a été mis en place, et c'est ce qu'on appelle les chambres de compensation. C'était une demande du G20 de Pittsburgh en 2009. Comment est-ce que ces chambres fonctionnent, Laurence Tialhomme ? Et là encore, pourquoi est-ce que le bilan est aussi mitigé ?
Alors, mitigé, disons que ça a créé de nouveaux risques. C'est-à-dire que je pense que ça a fait une partie du job, les chambres de compensation. Ce qui se passe, c'est qu'une grande partie de la crise était liée au fait qu'il y avait des tas d'activités, des transactions financières qu'on appelle de gré à gré. Disons que c'est sur mesure, ça veut dire. Sur les marchés dérivés, je crois que vous en avez parlé un peu dans d'autres émissions. Absolument. Cette semaine, de la définition. Et donc, on n'arrivait pas à savoir où étaient les risques, qui détenait quoi, etc. Le système était très opaque. Et donc, à partir du moment où la crise a débuté, les banques ne voulaient plus se prêter parce qu'en fait, on était incapable d'avoir une idée précise de qui avait quel risque. Et même au sein des banques, ils ne savaient pas ce qu'ils avaient. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait toutes les dérivées qui pouvaient être standardisables et passer par une chambre de compensation, devaient le faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un acheteur, un vendeur en face à face avec du sur-mesure, on les oblige à avoir un contrat « j'achète et je vends » à une chambre de compensation qui concentre les risques et qui, pour se protéger, procède à ce qu'on appelle des appels de marge, c'est-à-dire que ceux qui potentiellement font des pertes sur leur contrat, on leur demande de mettre un peu au pot à la chambre de compensation pour essayer d'assurer les pertes. Donc, c'est ce qu'on appelle les procédures d'appel de marge. Donc, les chambres de alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une multiplication des chambres de compensation.
Et on a créé des chambres systémiques.
Exactement, exactement. On a créé des chambres de compensation elles-mêmes systémiques. Et on a un problème spécifique à l'Europe qui a été très bien souligné par Vincent Bignon dans une précédente note Terra Nova. C'est qu'en Europe, la plupart des chambres de compensation sont à Londres. Elles compensent des contrats qui sont en euros. Or, l'autorité de supervision britannique n'a pas du tout de mandat sur la stabilité financière européenne. Et donc ça, la question du droit des contrats financiers est essentielle. Et apparemment, nos autorités publiques ne se rendent pas compte du fait qu'il est absolument nécessaire de rapatrier en Europe les chambres de compensation.
Dominique Pillon, sur ces chambres de compensation financière.
Je fais exactement la même analyse. Vraiment, ce qui est étonnant, on se demande si ce que vient de dire Laurence Tialhomme, c'est est-ce que les autorités sont conscientes de ce danger important par rapport à la nécessité de rapatrier qu'on ne fait pas, ou bien est-ce qu'elles considèrent que voilà, il y a d'autres considérations qui nous échappent, moi que je ne comprends pas, pour lesquelles ces opérations ne sont pas faites. Alors il y a des négociations, peut-être dans la plus grande discrétion, peut-être entre les autorités, qui font que voilà, on décide de ne pas rapatrier, mais pourtant aujourd'hui la tendance de la part des autorités françaises, c'est de chercher à rapatrier un maximum d'activités sur le continent. Donc c'est étonnant que l'actuelle administration, en premier rang desquels d'ailleurs le président de la République, qui est un ancien banquier, ne voient pas le problème et ne réagissent pas de manière plus forte sur ces questions-là.
Voilà. Alors, dans le catalogue des mesures discutées en 2008 et 2009, il y en a une qu'on n'a pas évoquée encore, c'est cette fameuse taxe sur les transactions financières. Donc, c'est une idée très ancienne, puisqu'elle avait déjà été proposée par le prix Nobel Monsieur Tobin en 1972, il y a 45 ans. Or, au G20 de Pittsburgh, les dirigeants européens proposent d'envisager la mesure, puis un projet de taxe européenne est proposé par la Commission européenne en 2011. Et c'est alors un projet beaucoup moins ambitieux que cette taxe Tobin ou Tobin, mais qui a alors le mérite d'exister.
Alors, pas tout à fait. D'abord, je veux dire, c'est pas Tobin, même si on lui doit beaucoup. C'est John Maynard Keynes, qui dans les années 30, au moment de la crise, les années 20-30 d'ailleurs, même avant la grande crise, avait préconisé cette mesure. Donc c'est quelque chose qui remonte à loin et Keynes est sans doute un des plus grands économistes du XXe siècle. Donc voilà. Ceci dit, qu'est-ce que c'est que le principe de la taxation des transactions financières ? C'est l'idée de décourager la spéculation en rendant celle-ci moins rentable, c'est-à-dire en taxant chaque opération qui est effectuée. Parce que souvent, la spéculation, c'est des va-et-vient incessants entre des monnaies, des actifs, etc. Et donc, une taxe relativement faible peut avoir un effet dissuasif intéressant. C'est ce que disait d'ailleurs dans ses articles célèbres James Tobin dans les années 70. Et c'est vrai, vous l'avez dit, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Au début, dans les années avant la crise, la plupart des gens étaient contre la taxe. On disait que c'est une bêtise, c'est irréaliste, ça n'aura aucun effet. Et puis, à l'occasion de la crise, on s'aperçoit qu'il y a un nombre croissant d'universitaires, de professionnels, de politiques, d'académies, enfin donc de gens qui disent « attention, là, il y a un instrument intéressant ». Et la Commission européenne elle-même a changé totalement d'avis, de telle sorte qu'elle a proposé, dans le cadre de ce qu'on appelle une coopération renforcée, c'est-à-dire avec 10 pays sur les 27 de l'Union européenne, de tenter et de rédiger une directive qui, comme je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, elle était plus intéressante que vous aviez l'air dire. C'est quelque chose de pas trop ambitieux.
Elle est plus ambitieuse.
Elle était ambitieuse notamment parce qu'elle s'attaquait aux produits dérivés, par exemple, qui faisaient monter.
Et donc elle allait plus loin.
Vent debout les banques françaises parce que pas des grandes banques comme la Société Générale sont des leaders mondiaux dans le négoce des produits dérivés. Donc il y a eu une montée au créneau. Et cette directive qui était pourtant négociée, adoptée pratiquement à la veille
des années de négociations.
Oui, bien sûr, mais elle était adoptée et il y avait eu un accord sous la fin de la présidence de Monsieur Hollande et l'actuel président a décidé que c'était une mauvaise idée. Donc la France est un pays qui a bloqué beaucoup dans cette affaire, alors que un pays comme l'Allemagne, par exemple, était très favorable.
Donc,
pour nous, on pense que c'est une bataille qui a été perdue, mais que la guerre n'est pas terminé parce que c'est une mesure qui, tôt ou tard, finira par être appliquée sous des formes à définir. Mais là, il y a déjà un projet directif tout à fait intéressant.
Ce que voulait effectivement Emmanuel Macron, ce qu'il a annoncé en septembre 2017, c'était une taxe européenne à 27. Or, étant donné la difficulté des négociations qui dure depuis 7 ans, c'était une manière de l'enterrer.
C'est la règle européenne de l'unanimité sur toutes les questions qui sont liées à... Si on veut enterrer une mesure fiscale en Europe, il faut le faire dire, on le fait à 27 et ça suffit pour bloquer, quoi.
Do what I want. I never get caught. I never get caught. Cause I do what I want. I do what I want. I never get caught. I never get caught. Cause I do what I want. Helicopters try and stop us. We're on the ground with the muzzle rockers. They call the dogs now, they call the doctors. They won't stop us, they'll never stop us. Helicopters try and stop us. We're on the ground with the muzzle rockers. They call the dogs now, they call the doctors. They won't stop us, they'll never stop us. I want. I need to get caught. doctors, they won't stop us, they never stop us. Helicopters, try and stop us. We're on the ground with the Muslim rockers. They call the dogs and they call the doctors. They won't stop us, they never stop us.
Vous écoutez France Culture? Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Rocchini.
C'était I Do What I Want de Tristesse Contemporaine. Nous sommes toujours avec Laurence Chialom et Dominique Plion pour parler des leçons de la crise. Alors, on l'a vu, de multiples mesures ont été prises, certaines cosmétiques, d'autres plus efficaces, mais avec un bilan qui est globalement assez mitigé. Comment expliquer tant de difficultés? Et d'abord, quel rôle ont joué les lobbies, Dominique Plion, dans tous ces obstacles qui ont été dressés sur le chemin de la régulation?
Je crois qu'on ne sera pas surpris si je dis que les lobbies ont joué un rôle extraordinairement important. On a parlé tout à l'heure de l'importance des grands patrons des grandes banques au moment de la discussion sur la loi dite de séparation qui ne sépare pas grand-chose. Donc les lobbies sont très importants. Et ce qui se passe en France, comme dans d'autres pays, notamment les États-Unis, mais en France aussi et particulièrement, c'est le lien extrêmement étroit qu'il y a au niveau le plus élevé de l'appareil d'État entre les hauts fonctionnaires, inspecteurs généraux des finances, par exemple, qui se retrouvent tantôt régulateurs, qui traversent la rue pour se retrouver demain, le lendemain, à la tête d'une grande banque. Et puis, le troisième jour, par exemple, gouverneur de la Banque de France, au hasard. Et donc, ça fait qu'il y a un vrai problème de consanguinité et d'interaction forte entre les autorités et les professionnels, les banquiers, les investisseurs, qui est extrêmement malsain et qui explique pourquoi, finalement, les réformes difficiles mais nécessaires ne sont pas prises. Voilà, parce que il y a une résistance extrêmement efficace des grands lobbies financiers en France, dont le principal en France, c'est la Fédération bancaire française, la FBF, mais où sont rassemblées toutes ces personnes dont je viens de parler.
Mais est-ce que ces banquiers qui ont énormément de compétences techniques ne sont pas finalement les mieux placés pour être à la tête de ces instituts de régulation?
C'est tout le problème, c'est-à-dire c'est ce qu'on développe d'ailleurs beaucoup dans le rapport. Une des grandes erreurs qu'on a fait, c'est que le régulateur court derrière la complexité, n'a pas essayé de la réduire, ni la complexité des produits, des activités, ni la complexité des structures de groupes bancaires. Le résultat de ça, c'est qu'effectivement, ça légitime un discours selon lequel il n'y a que des gens qui viendraient de la finance, qui sont capables de comprendre et donc qui sont capables de structurer, surveiller, etc. Et c'est précisément pourquoi, dans les agences de régulation, vous avez des tas de personnes qui viennent, qui font des allers-retours, qui vont une partie de leur carrière dans la banque, puis ensuite dans les instituts de régulation. Alors, je ne dis pas que ces personnes, pas du tout, c'est pas du tout des questions individuelles. Simplement, quand vous avez passé un certain nombre d'années, et il y a même un seuil, puisqu'il y a des études académiques qui montrent maintenant les effets pervers de ça, dans l'industrie financière, eh bien, vous en adoptez les codes, vous en adoptez la vision du monde. C'est pas parce que nécessairement vous voulez défendre les intérêts, c'est pas toujours ça. C'est simplement vous avez adopté le même cadre intellectuel, la même vision du monde. Et ça, je pense que c'est une erreur majeure. Il y a des études maintenant qui montrent qu'il y a des mécanismes d'identification sociale qui sont à l'œuvre. Donc, je pense notamment à une étude sur la Banque des Pays-Bas qui a été menée par des chercheurs de la Banque des Pays-Bas. Il y a des études qui ont été menées sur les CV des banquiers centraux qui montrent qu'avec le néolibéralisme, on a de plus en plus de banquiers centraux qui ont fait une carrière dans la banque. Et on montre qu'au-delà de 6 ans, je crois, d'activité dans la banque, eh bien, on dérégule beaucoup plus que si on vient, par exemple, de la Banque des Règlements Internationaux ou... Ce que je veux dire, et ça, c'est beaucoup plus pervers, si vous voulez, c'est beaucoup plus insidieux, cette idée de je partage une vision du monde, ça rentre dans les interstices, quoi, de la régulation.
Et alors, qu'est-ce que vous préconisez, Laurence Chialom? Comment est-ce qu'on peut aller vers moins de complexité? Et comment est-ce qu'on peut empêcher, est-ce qu'il faut interdire d'anciens financiers de rejoindre ces institutions?
Alors, il y a des tas de choses qui sont possibles. Déjà, ce qu'il faudrait, c'est que, on rompe avec cette course à la complexité, que le régulateur fasse ce qu'il a le droit de faire, c'est après tout c'est une autorité publique, interdire certaines activités, interdire certaines pratiques, séparer les activités, une véritable séparation des activités, là vous réduiriez beaucoup la complexité des groupes. Et d'ailleurs, c'est une solution au too big to fail, mais c'est également une solution au too big to manage, c'est-à-dire que quand par exemple il y a eu le PDG de HSBC ou le PDG de Wells Fargo qui ont été empêtrés dans des scandales financiers. Quelle a été leur défense ? Leur défense a été de dire, et ça on a les témoignages, hein, leur défense a été de dire, ah non mais c'est beaucoup trop gros pour être manœuvré. Mais prenons-les au mot, c'est effectivement beaucoup trop gros pour être manœuvré. Donc il faut séparer les activités. Donc ça résout la question, enfin ça limite la question du too big to fail, ça permet de responsabiliser les agents dans les banques, parce que le problème c'est aussi ça, il y a une déresponsabilisation, jamais, c'est les banques qui payent les amendes quand il y a des scandales, c'est jamais les individus. Alors bon, on a, les autorités américaines ont exigé que certains banquiers quittent leur poste, mais bon, voilà, c'est, il y en a pas beaucoup en prison, en Islande il y en a eu quelques-uns, mais...
Et enfin, il y a un obstacle plus idéologique, selon vous, Laurence Chalom, la vieille théorie de l'efficience des marchés qui est toujours dominante, selon vous. On écoute l'économiste Alain Ming qui louait en janvier 2008, donc quelques mois avant la chute de Lehman Brothers, l'excellente régulation du système.
Ce que je voudrais quand même ajouter en contrepoint de ce que tu dis, c'est quand même l'incroyable plasticité du système. Parce qu'on nous aurait dit... qu'au fond, le système financier serait régulé avec un doigté tel qu'il évitera une crise qui aurait pu être quand même de l'ampleur des très grandes crises financières qu'on a connues dans le passé. C'est quand même, je veux dire, un univers qui est très résilient, qui est finalement, sans qu'il y ait d'organes apparents de régulation, très bien régulé. Quand même. Je veux dire, le jeu conjugué des banques centrales et même des gouvernements, on se dit l'empirisme, en réalité, prévaut au-delà des postures idéologiques et l'économie mondiale est plutôt bien gérée.
L'économiste Alain Ming, donc en 2008, les économistes, on le sait, ont été largement critiqués pour ne pas avoir vu venir la crise. Et pourtant, le travail d'introspection n'a pas été fait. Selon vous, Laurence Chalom, les économistes n'ont pas repensé leur théorie à la lumière de la crise ?
C'est pour ça que la science économique n'est pas une science, c'est une science sociale. Jamais une science qui a vécu une crise comme celle des années 30 aurait pu... ensuite se fonder sur des théories qui avaient été infirmées par la crise des années 30. Et c'est tout ce qui s'est passé avec l'école de Chicago qui a légitimé la dérégulation. Donc je pense que, bien sûr, maintenant on enseigne la régulation micro, macro-prudentielle, mais les fondements même n'ont pas changé. Et c'est très lié, je pense, au caractère structurant du concept d'équilibre dans notre discipline. Le concept d'équilibre est présenté comme un concept neutre. En réalité, il est hautement idéologique parce qu'il présente l'idée d'une société où chacun finalement récupère en fonction de ce qu'il donne, donc une société de méritocratie. Et d'ailleurs, on oublie que au moment où la discipline s'est constituée, c'était l'économie politique, ça a été un instrument de lutte contre le socialisme, l'idée d'équilibre. Donc si vous voulez, c'est les fondements même, et le fait qu'on ait une macroéconomie qui soit toujours micro fondée, c'est-à-dire l'idée que on estime, la plupart des économistes estiment que un système complexe au niveau macro, eh bien on peut imaginer comment il va fonctionner en regardant ce qui se passe au niveau microéconomique. C'est une aberration. Le risque systémique, quand vous protégez des risques au niveau individuel, si tout le monde fait la même chose en même temps, vous augmentez le risque systémique. Donc il y a une incapacité, disons, de l'économie dominante à penser même une crise qui soit endogène au système. Et en fait, les barrières disciplinaires sont un écueil massif à la compréhension de la complexité de la finance.
La grande dépression des années 30 avait donné naissance à l'économie keynésienne. La crise de 2008, Dominique Plion, elle n'a entraîné aucun virage intellectuel comparable ?
Non, je crois quand même qu'il y a un certain nombre d'économistes, certes minoritaires, qui ont... même avant la crise d'ailleurs, hein, mais qui depuis la crise encore plus ont apporté des approches théoriques tout à fait convaincantes sur le fonctionnement du système en termes de déséquilibre, justement, le fait que le système, comme l'avait montré Keynes, est fondamentalement instable, la finance est fondamentalement instable. Donc cette vision-là, à l'opposé du modèle que présentait M. Ming d'une manière extrêmement naïve, somme toute, enfin faussement naïve. Hein. Voilà, quand il dit qu'il ne faut pas être idéologue, je crois que lui est le premier des idéologues quand il présente cela. Donc je crois que non, il y a un progrès de l'économie et de la science économique, mais elle est marginale aujourd'hui. Elle n'est pas reconnue autant que l'économie dominante, qui est l'approche en termes d'efficience des marchés. Alors, je peux me permettre de revenir un tout petit peu en arrière pour prolonger ce que disait Laurent. Laurence, à propos de un des éléments du bilan qu'il faut tirer, c'est en termes de gouvernement à la fois des banques et des autorités. Il y a un vrai problème, c'est que on n'a rien changé de fondamental en termes de gouvernement des banques. C'est toujours un gouvernement des banques pour les actionnaires, essentiellement, et les dirigeants travaillent pour les actionnaires, le rendement du capital pour les actionnaires. Et au niveau des autorités, c'est toujours les mêmes acteurs qui sont là, et avec une absence totale de diversité. Donc le mot que je mettrais en contrepoint, si demain on pouvait faire évoluer le système, c'est que dans les conseils d'administration, les organes, les instances de direction des banques, mais aussi dans les instances des autorités, y compris la Banque centrale, on a vraiment besoin d'avoir une diversité d'acteurs, pas que des banquiers, pas que d'ailleurs que des académiques, ou pas que des académiques représentant le même courant de pensée. Et le jour où on aura ça, je pense qu'on aura d'abord des débats intéressants, qui devraient être rendus publics, mais aussi on aura beaucoup moins de risques de crise, parce que je crois qu'à ce moment-là, il y aura nécessairement une évolution des mentalités. Et aujourd'hui, il y a un monolithisme qui est lié au lobbyisme, qui est lié à l'endogamie à l'intérieur du système, qui est extrêmement intéressant. Je recommande aux auditeurs d'aller voir l'observatoire du pantouflage qui s'appelle Pantoufle Watch sur Internet, et vous serez édifiés sur tous ces acteurs qui font du pantouflage, pas que dans la finance, hein, dans l'industrie, dans le nucléaire, et ainsi de suite. Et là, vous comprendrez une partie des réponses. Là, vous aurez une partie des réponses à ce qui se passe.
Laurence Chalom.
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée d'endogamie. Et en complément, allez voir aussi ce qu'écrit le think tank bruxellois Corporate Europe Observatory sur ces questions. Ils ont notamment, ils ont regardé le devenir de tous les membres de la commission Barroso 1, Barroso 2. Et c'est effectivement excessivement instructif.
Beaucoup de conseils de lecture pour nos auditeurs, mais alors, selon vous, Laurence Chalom, il y a des dogmes à remettre en cause, et notamment le fait que la dette publique reste l'objet de tous les débats, à tort selon vous, alors que la dette privée, elle, continue à être largement encouragée. Selon vous, il faudrait faire l'inverse ?
Bien sûr. Alors en fait, c'est pas une histoire de faire l'inverse. Hein. Je dis pas que la dette publique, il faut ne pas s'en préoccuper. Hein. Non, je pense qu'il faut. Non. Ce que je dis simplement, c'est que on aurait dû, à l'occasion de cette crise, essayer de désintoxiquer nos économies de la dette. Or en fait, ce qu'on observe, c'est que la dette privée est toujours aussi importante, plus dans les pays émergents même aujourd'hui. Ça crée une fragilité systémique, ça, parce que à partir du moment où vous avez un retournement, eh bien, vous avez les gens ne pouvant plus, rembourser leurs dettes, qu'est-ce qu'ils font? Ils consomment moins, ils investissent plus. Donc, c'est exactement c'est quelque chose qui est connu depuis les années 30, hein, la déflation par la dette. Et on a effectivement tout un tas de dispositifs qui favorisent la dette privée. Pourquoi? Eh bien, parce que notamment pour les ménages, eh bien, ça se substitue l'endettement. D'une certaine manière à l'État-providence aux États-Unis par exemple, et au fait que tout un tas de ménages utilisent le crédit pour et alors ça c'est pour les personnes qui sont qui ont le moins de revenus, mais pour les personnes qui ont les revenus les plus conséquents, donc la fraction la plus riche de la population, bien le crédit peut servir à spéculer. Donc ça veut dire que d'un côté ça enlise des parties de la population, et il y a des mesures fiscales à prendre pour favoriser des financements qui ne soient pas par la dette.
Et vous remettez également en cause, Laurence Chalom, le dogme selon lequel la finance est un moteur inépuisable de la croissance. Pourquoi est-ce que ce n'est pas tout à fait vrai, selon vous ?
Alors d'abord parce que ça aussi, c'est-à-dire la vision des autorités publiques n'a pas changé sur la finance. Ce qu'on voit, c'est qu'ils défendent toujours des champions nationaux. Ils pensent toujours que le développement de la finance va augmenter la croissance. Or, qu'est-ce qu'on a comme ? On a un foisonnement d'études empiriques qui montrent qu'au-delà d'un certain seuil de développement de la finance est prédatrice de la croissance, c'est-à-dire pèse sur la croissance et ne la booste pas au contraire, que la finance augmente les inégalités, est un facteur massif d'augmentation des inégalités, et pourtant, on continue à essayer de développer une économie endettée, etc.
Sur la finance comme moteur de la croissance,
deux idées différentes. Une des raisons pour lesquelles je suis inquiet, comme je pense Laurence Chalom sur la question de la dette publique et privée, mais surtout privée, c'est qu'aujourd'hui, on a ce phénomène qui est que nous avons un ralentissement global de l'activité dans l'économie mondiale, et nous allons avoir une remontée des taux d'intérêt inéluctable, ce qui veut dire que le poids de la dette va augmenter, que dans certains ménages, certaines entreprises, certains pays vont se retrouver en grande difficulté. Mais l'autre sujet qui paraît important, qu'on doit absolument mentionner dans cette émission, même si vous en avez parlé dans d'autres, je suppose, c'est la question de aujourd'hui, le défi, c'est la transition énergétique et sociale. Et il faut avoir absolument un système financier qui soit adapté à ce financement. Et une des caractéristiques du système financier actuel, notamment des banques et d'investisseurs, c'est ce qu'on appelle le court-termisme. Ces acteurs sont dans l'incapacité à financer des investissements lourds de long terme aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on manque cruellement d'une finance tourner vers le long terme, vers des investissements lourds, donc incapables de financer la transition de demain et même d'aujourd'hui. Et ça, c'est catastrophique. Je veux dire que donc il y a un risque de crise de la dette, première idée. Deuxième idée, on a un système qui est absolument pas adapté au financement de la transition, qui est le grand, grand défi pour dans les prochaines décennies pour l'humanité.
On manque d'investissements à plus long terme.
Je suis 100% d'accord avec ça. Et ça, ça veut dire une réforme drastique du système financier. Ça veut dire notamment favoriser au niveau local, notamment pour les financements de circuits courts, de l'agriculture biologique, etc., des banques éthiques, des banques alternatives, des circuits de financement courts, en fait, faire du circuit court en finance. Mais actuellement, la réglementation écrase l'émergence de ces acteurs. Et ça signifie, au niveau mondial, hein, pas seulement ou au minimum régional, créer des systèmes de canalisation des liquidités vers des projets longs, avec, par exemple, des systèmes de garantie publique sur certains types d'investissements. Donc, ça veut dire vraiment un changement drastique de paradigme et de régulation dans ce sens.
Vous commenciez à l'évoquer tout à l'heure. Je voudrais vous poser cette dernière question à l'un et à l'autre. Quelles pourraient être les conséquences du Brexit sur la finance européenne? Quels effets cela pourrait avoir, Laurence Chalem?
Alors là, c'est un peu compliqué, quoi. C'est sur la finance européenne, je suis pas sûre que ça va changer fondamentalement. Disons que
est-ce qu'on va aller vers plus de libéralisation.
Le risque, c'est effectivement qu'en termes de réglementation, on ait une pression qui vient déjà des États-Unis, mais qui viendra également des Britanniques pour plus de déréglementation. Et on a effectivement, ça risque d'accentuer la pause réglementaire qui risque de devenir en Europe une régression en matière de réglementation. Mais sinon. Alors peut-être qu'on va avoir peut-être un rééquilibrage vers une finance plus continentale. Donc il y a un modèle quand même qui est plus de finance continentale. Mais ça, sincèrement, c'est un peu tôt pour le dire. Non, le vrai risque, c'est en termes de déréglementation, je pense.
Dominique Pillon, le Brexit ne fera qu'accélérer.
Le terme que j'emploierais, c'est qu'il y a une concurrence réglementaire qui s'intensifie entre les deux côtés de la Manche en particulier. Ouais. Et donc l'idée, c'est pour attirer des investisseurs dont on pense qu'ils plus seront nombreux, plus ça sera favorable à l'économie, ce qui reste à démontrer, eh bien, on les attire en baissant la réglementation, en baissant la garde. Donc voilà, et c'est ce qui est en train de se produire. Si vous rajoutez à ça ce qui se passe aux États-Unis avec la dérégulation états-unienne, donc on peut imaginer que au niveau, vous voyez, de ces régions du monde, États-Unis, Grande-Bretagne, Europe continentale, on est un processus de déréglementation extrêmement dangereux qui a commencé, hein, et qui se manifeste.
Ça ne fera qu'aggraver, qu'accélérer
ce
nouveau cycle dont vous parlez.
Ça veut dire qu'on baisse la garde face à une future crise. On aura, et le jour où cette crise arrivera, on se dira, ah bah tiens, il y avait un déficit de régulation, ce qu'on a dit à propos de la crise de 2007-2008.
Laurence Chalem.
Ne permettent plus d'absorber les pertes comme on l'a fait, c'est ça le problème. Les États sont nus maintenant.
Ouais. Alors Laurence Chalem, Dominique Pillon, nous sommes aujourd'hui partenaires du Figaro et nous recevons la journaliste Bertille Bayard. Bonjour Bertille.
Bonjour.
Alors vous nous proposez une chronique sur le rôle des banquiers dans la crise financière.
Oui, la crise de 2008 a été violente, elle a été brutale et elle a fait tellement de dégâts qu'elle a aussi provoqué beaucoup de colère. Et la colère étant, on le sait, mauvaise conseillère, cela peut pousser à des excès, à la caricature. Le risque, quand on cherche à tirer la leçon des événements, c'est de substituer à un dogme, celui de la main invisible, une nouvelle radicalité.
Qu'est-ce qui vous paraît trop radical dans les propos qu'on entend sur la crise?
Par exemple, ce qu'ont dit les banquiers. Faut-il déduire de la crise de 2008 que les banquiers sont seuls coupables, tous coupables et forcément coupables? Je ne le crois pas. Un, les banquiers ne sont pas les seuls responsables de ce qui s'est passé. Comme le dit Carlos Ghosn dans le Figaro, le patron de Renault, les banquiers seuls n'auraient pas pu fabriquer une telle tragédie. Il a fallu une collusion autour d'eux pour le faire. Et cette collusion a impliqué les autorités publiques. 2008, c'est aussi le résultat d'une volonté politique, d'un acquiescement des administrations américaines successives au développement d'une Amérique de propriétaires. Et 2008, c'est aussi le produit d'un aveuglement collectif devant un système qui allait dans le mur.
Tout le monde ne s'est pas aveuglé, certains ont tout de même prédit la crise.
Oui, et c'est pour ça que je dis que les banquiers ne sont pas non plus tous coupables. Ils n'ont pas tous participé à la folie des subprimes. Le livre et le film The Big Short ont popularisé le parcours de ces quelques financiers qui ont prévu l'effondrement du système. Lisez aussi Fool's Gold. La journaliste du FT, Gillian Tett, raconte l'incrédulité de ceux qui avaient créé les produits dérivés de crédit, les CDS, devant ce que Wall Street était en train d'en faire.
Et alors, comment comprendre que certains aient su faire preuve de discernement et pas les autres ?
On en revient au banquier. Un banquier, dit l'ancien patron de BNP Paribas, Baudouin Pro, doit avoir bouffé du risque et de la créance douteuse. Ça veut dire que l'expérience du banquier est une donnée déterminante du problème. Il faut à la tête des banques et à la tête de leurs activités les plus risquées, des professionnels qui ont du vécu, qui connaissent l'odeur des pertes qu'on encaisse quand on perd de vue le bon sens. Des banquiers qui n'ont pas que les modèles et les algorithmes comme boussole et pas que leurs bonus comme seule ligne d'horizon.
On ne va pas faire reposer toute la sécurité du système sur le flair des banquiers.
Non. Mais cette question de la compétence est vraiment importante parce qu'une grande partie de la crise s'explique par l'incompétence. L'autre enjeu, c'est évidemment celui de la régulation et plus encore de la supervision. C'est cela qui fera que les banquiers ne seront pas forcément tous coupables. Là encore, certains seront tentés par une vision radicale qui consistera à brider, pour ne pas dire à brimer, l'activité bancaire, à interdire la spéculation, sans d'ailleurs que l'on sache bien ce que définit ce mot. Là encore, je ne pense pas que la radicalité soit la solution. Prenons un exemple. On entend souvent qu'on n'a pas assez tiré les leçons de la crise, puisqu'on n'a pas décidé de couper les banques en deux, qu'on n'a pas séparé activité de dépôt et activité de marché. Mais le postulat de départ est faux. On a vu en 2008 tomber de pures banques d'investissement et de pures banques de détail. Je cite Jean Tirole, on peut prendre beaucoup de risques, dit-il, en se concentrant sur des activités plan-plan. Tirole est, faut-il le rappeler, Nobel d'économie. Et pour lui, 2008, c'est, je cite encore, une défaillance massive de l'État dans sa mission de supervision. 10 ans après, on peut continuer d'instruire le procès des banquiers, mais je crois plus utile de se concentrer aujourd'hui sur l'évaluation de la pertinence et de l'efficacité de l'action publique. Il nous faut de bons banquiers, il nous faut surtout de bons gendarmes, indépendants bien sûr, compétents surtout.
Merci beaucoup, Bertie Maillard. Vous avez donc supervisé ce dossier intitulé « La crise 10 ans après » qu'on retrouve toute cette semaine dans les pages du Figaro. Laurence Salon, Dominique Plion, vous vouliez réagir ?
Je ne pense pas qu'il faille parler d'incompétence. Hein. Je pense que les gens qui étaient aux commandes, ou qu'ils étaient d'ailleurs dans les autorités ou chez les professionnels dont on a montré qu'ils étaient le même cercle en réalité, c'est des gens qui savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils ont essentiellement sous-estimé les risques, hein, mais je pense qu'il y avait une vision fausse de la réalité, et malheureusement, on l'a entendu à la main, hein, d'ailleurs, dans ce type de vision. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir les schémas de pensée, le paradigme de fonctionnement de la finance, et malheureusement, ceux qui poussent dans cette direction sont encore minoritaires, ce qui me rend pas très optimiste pour le futur immédiat.
Alors, il est 14h50, c'est l'heure de retrouver les nouvelles de l'écho avec Arjuna Andrade. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous nous parlez aujourd'hui d'un nouveau risque qui pèse sur les marchés américains.
Oui, plus de 10 ans après le déclenchement de la crise des subprimes, une nouvelle menace pèse sur l'économie américaine. Celle d'une explosion des défauts sur les emprunts étudiants. Si ce n'est pas la première fois que des journalistes et économistes tirent la sonnette d'alarme à ce sujet, un rapport de l'Urban Institute, un institut de recherche basé à Washington DC, nous rappelle l'ampleur du problème. Ce sont ainsi près de 40 millions d'Américains qui se sont endettés pour financer leurs études et plus d'un million d'entre eux, qui font défaut chaque année. Le problème n'est pas nouveau, mais il s'aggrave un peu plus chaque année. Alors que 8 millions de ces emprunteurs sont aujourd'hui considérés comme insolvables, il pourrait être 15 millions à l'horizon 2023. Et ce sont bien entendu les emprunteurs issus des minorités et des catégories populaires qui sont les plus touchés par ce risque de défaut.
Un système qui aurait pourtant été mis en place pour favoriser l'égalité.
Oui, c'est en tout cas ce qu'explique l'économiste Jacques Sapir dans un article consacré à ce sujet. Jusqu'à la fin des années 80, le système universitaire américain repose largement sur les subventions publiques qui permettent de rétablir une forme d'équité entre enfants issus de la bourgeoisie et des catégories populaires. Mais l'envolée des frais de scolarité a transformé ce qui devait être un cercle vertueux en piège pour les étudiants les plus précaires. On a un effet de cisaillement avec le retrait progressif du financement de l'État d'un côté, alors que les universités de l'autre rivalisent d'investissement pour se maintenir à la pointe d'un environnement très concurrentiel. En clair, moins de subventions et des frais de scolarité qui s'envolent. Dans le même temps, des légions de licenciés d'universités de moindre réputation se sont rendus compte que leur diplôme, qui avait coûté parfois des dizaines de milliers de dollars, n'avait aucune valeur sur le marché du travail. Une perte de revenus pour les classes moyennes qui pénalise encore une fois ces classes moyennes et populaires dans leur accès aux études supérieures.
Et le président Trump pourrait encore aggraver cette situation.
Oui, car cette dette est pour l'instant gérée quasi exclusivement par l'État fédéral. Mais le président américain qui s'est fait fort de ramener cette incroyable manne financière dans le giron des banques privées. C'est or cette mainmise de l'État américain qui avait été voulue par son prédécesseur afin de protéger les étudiants contre les aléas du marché et leur assurer un accès égalitaire au crédit. Trump, au contraire, estime que les établissements financiers sont les plus à même d'analyser la solvabilité des étudiants avant de leur accorder un prêt. On se rappelle en effet de la clairvoyance de ces mêmes établissements privés à l'aube de la crise des subprimes. Autant dire en tout cas que c'est le jackpot assuré pour Sallie Mae, Wells Fargo et les autres qui se partagent pour l'instant 7% seulement du marché, mais qui se tiennent prêts à prendre d'assaut au premier signe de la Maison Blanche.
Il faut dire que c'est un marché tout à fait florissant.
Oui, en 10 ans à peine, le total de ces prêts a triplé pour atteindre les 1 400 milliards de dollars. Du fait notamment de l'explosion du coût des études supérieures, avec une dette moyenne de 32 000 dollars par étudiant, soit un doublement sur cette période. Et il est certain que la réforme voulue par Trump ne profitera pas aux étudiants, puisque selon un article des Échos à ce sujet, les prêts consentis par l'État américain ont actuellement en général un taux fixe aux alentours de 4%, alors que les organismes privés proposent des taux de 14% en moyenne. Les prêts fédéraux sont en outre assortis d'un ensemble de protections, comme l'allongement des échéances ou leur suspension temporaire en cas de difficultés financières, ce que ne proposent évidemment pas les établissements privés. Une situation qui a donc de quoi inquiéter et qui explique l'importance qu'avait pris le sujet au cours des dernières élections présidentielles américaines. Les candidats de gauche avaient ainsi rivalisé de propositions pour encadrer une situation qui a aujourd'hui tout d'une bombe à retardement.
Merci beaucoup Arjuna, Laurence Shalom, Dominique Plion. Les prêts étudiants pourraient être les nouveaux subprimes?
C'est une possibilité. On peut toujours les titriser, les mélanger avec des crédits qui sont plus solvables. Et puis effectivement, ça peut conduire à une nouvelle crise. Mais bon, ce n'est qu'un des facteurs de risque. Hein. Je ne suis pas sûre que ce soit le plus grave. Mais pour vous, aux États-Unis, c'est un problème grave.
Pour vous, Dominique Plion, c'est pas le facteur de risque le plus important?
Non, je pense, mais ça s'inscrit dans ce que Laurence Yalom disait tout à l'heure, c'est-à-dire une montée de la dette privée, des étudiants, des particuliers, des entreprises, etc. Les statistiques existantes montrent que c'est un phénomène général dans les pays dits avancés comme le nôtre, mais aussi dans les pays émergents comme
la
Chine.
C'est nouveau.
Et c'est pour ça que s'il y a une nouvelle crise de la dette, elle pourrait prendre des formes et une ampleur tout à fait différentes de celles qu'on a connues.
Elle pourrait naître en Chine.
Elle pourrait commencer en Chine, exactement.
Poor relation.
On se quitte sur Show Me The Money de Percussion Junction. Merci beaucoup, Laurence Shalom.
Merci.
Je rappelle le rapport de Terra Nova, dont vous êtes la co-auteure avec Vincent Bignon et Gisabelle Coupé-Soubéran. 10 ans après, bilan des réformes bancaires et financières depuis 2008, avancée, limitée, proposition, et donc qui sera publié le 3 septembre. Merci également à vous, Dominique Plion. Je rappelle aussi le livre auquel vous avez contribué, 10 ans après la crise, Prenons le contrôle de la finance, publié par Attaque aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast, et rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.